Chapitre 9. Dans l'attente soit des événements, soit de ce que Napoléon déciderait à mon égard, j'allais jeter un coup d'œil de prédilection sur cette magnifique Lombardie, à la liberté de laquelle je m'étais voué à mon début dans la carrière des hauts emplois. Hélas, elle gémissait aussi sous l'oppression impériale, et sa destinée politique ne dépendait que trop de la destinée de Napoléon. En conquérant l'Italie, nous avions apporté notre activité, notre industrie, le goût des arts et du luxe. Milan fut la ville qui retira le plus d'avantages de la Révolution française que nous y avions transplantée. Milan reçut plus de lustre encore lorsqu'elle devint capitale d'un royaume. Une cour, un conseil d'État, un sénat, un corps diplomatique, des ministres, des administrations civiles et militaires, des tribunaux, ajoutèrent près de 20 000 habitants à sa population qui dépassait 100 000 âmes. Milan s'embellit, mais sa période brillante fut de courte durée, comme celle de tous les royaumes italiens que l'ambition du dominateur épuisa bientôt d'hommes et d'argent dans sa vaine pensée de conquérir le monde. Le vice-roi Eugène ne fut bientôt plus, aux yeux des Lombards, que l'exécuteur obéissant de toutes ses volontés. Après Moscou, tous les ressorts du gouvernement avaient perdu leur élasticité, en Italie comme en France. Le sentiment de la puissance de Napoléon s'éteignait, en même temps que s'éclipsait l'illusion de sa fortune militaire. Dans ces derniers temps, Eugène sembla craindre de se populariser pour ne pas lui porter ombrage. D'ailleurs, brave soldat et d'une loyauté éprouvée, Eugène était parcimonieux, un peu léger, trop docile au conseil de ceux qui flattaient ses goûts, ne connaissant point assez le caractère des peuples qu'il gouvernait et trop confiant dans quelques Français ambitieux. Il lui manquait de posséder la tactique politique au même degré que celle des armes. Arrivé à ces derniers temps d'épreuve, ce prince acheva de mécontenter les peuples par des conscriptions et des réquisitions forcées. En un mot, le vice-roi ne céda que trop à l'exemple et à l'impulsion du souverain dominateur. Sa position devint d'autant plus difficile qu'il eut bientôt contre lui et les partisans de l'indépendance italienne et ceux de l'ancien ordre des choses. Les premiers s'inquiétaient davantage, cherchaient un appui. De même que son père adoptif, Eugène n'en trouvait plus d'autre pour le maintien de son autorité que dans son armée, qu'il s'était hâté d'organiser et d'aguerrir. Tout restait en suspens en Italie. On savait que trois grandes armées en Allemagne environnaient, pour ainsi dire, l'armée de l'empereur, avec le projet de manœuvrer sur les bases de sa ligne d'opération à Dresde, et, si les événements de la guerre leur étaient favorables, de se réunir en arrière de cette ligne entre l'Elbe et la Saale. On savait aussi que Napoléon avait à opposer aux trois grandes armées des alliés à peine 200 000 hommes, répartis dans 11 corps d'infanterie, 4 de cavalerie et dans sa garde qui présentait une réserve formidable. Nous venions de savoir enfin qu'il s'était décidé, pour ne pas se laisser tout à fait cerner, d'abandonner la position centrale de Dresde pour aller manœuvrer à Magdebourg et sur la Saale. Tout à coup, vers les derniers jours d'octobre, je reçois du quartier général de vice-roi un billet conçu en ces termes « Pour ne vouloir rien céder, il a tout perdu ». Qu'on juge de ma perplexité et de mon impatience à connaître l'étendue de l'événement. Dès le lendemain, se propagèrent des bruits sinistres sur les fatales journées de Leipzig qui allaient ramener sur le Rhin Napoléon poursuivi par l'Europe en armes. Ici se réalisaient tous mes pressentiments, toutes mes prévisions. Mais qu'allions-nous devenir et quel serait le sort de cet empire chancelant? Il était facile de prévoir que l'énorme pouvoir dont l'empereur s'était emparé, s'il n'était abattu, serait au moins détruit. D'un autre côté, je ne m'abusais pas sur le genre d'opposition qu'il pourrait rencontrer dans l'intérieur de l'empire. Tous les éléments de la puissance publique m'étaient connus. Tous les hommes, plus ou moins influents, je pouvais les apprécier et juger de la portée de leur courage et de leur énergie. Il fallait un audacieux et il n'y avait que des lâches. Le seul homme qui, par son talent et par sa souplesse, aurait pu maîtriser les événements et sauver la Révolution, n'avait point d'un air politique et craignait pour sa tête. Quant à moi, qui certes n'eusse pas manqué de résolution, j'étais éloigné du vrai foyer, soit par des chances fortuites, soit par des combinaisons préparées de longue main. J'en frémissais d'impatience et, décidé à tout braver pour entrer dans la capitale et y ressaisir les fils secrets d'une trame qui nous eût conduit à un but salutaire, j'étais déjà en route quand une lettre de l'empereur datée de Mayence m'ordonna, en réponse à mon dernier rapport, d'aller prendre le gouvernement général de Rome dont je n'avais été jusqu'alors que le titulaire. Je vis le coup, mais nul moyen de le parer. L'homme qui perdait l'Empire se trouvait encore en sûreté avec les débris de sa puissance militaire. Je ralentis ma route pour voir se dessiner les événements et, dans l'attente de recevoir de mes affidés de Paris des informations positives sur la sensation que produirait le retour subit de l'empereur à la suite de ces nouveaux désastres, mais que je connaissais bien le terrain et que j'avais bien jugé les hommes qui l'occupaient. Pas 20 sénateurs qui ne crussent l'Empire hors de danger parce que l'empereur était sauvé. Pas un grand fonctionnaire qui soupçonna les armées européennes capables de franchir le Rhin. Malgré la stupeur qui régnait dans toutes les classes, l'aveuglement créait encore des illusions en faveur du pouvoir. Il faut en excepter sans aucun doute l'homme habile que j'ai suffisamment désigné. Il semblait épier avec une astuce et une ironie cachées l'instant d'une chute qui ne lui paraissait pas être arrivée encore à son terme. Cependant, l'Italie allait changer d'aspect. Abandonnant successivement l'Isonzo, le Tagliamento, la Piave et la Brenta, le vice-roi venait de repasser l'Adige et d'établir son quartier général à Vérone. L'armée autrichienne, marchant toujours en avant et recevant des renforts, s'établit à Valence, à Bassano, à Montebello, formant déjà le blocus de Venise, de Palmanova et d'Osopo. Dans les négociations secrètes dont j'avais tenu les fils, l'abandon des États de Venise jusqu'à l'Adige était consenti comme un des préliminaires de paix avec l'Autriche. Mais où pouvaient s'arrêter aujourd'hui les prétentions de cette puissance? Les deux armées restèrent ainsi en présence, comme en quartier d'hiver. C'était sur l'Italie méridionale que se portaient tous ces regards, et d'où l'on attendait les déterminations politiques et militaires qui rendraient quelque activité aux deux armées qui s'observaient sur la Brenta et sur l'Adige. Murat, jugeant les affaires de Napoléon entièrement perdues après les journées de Leipzig, s'était hâté de retourner à Naples pour y reprendre le plan qu'il supposait devoir le maintenir sur le trône, même après la ruine de celui qu'il y avait fait monter. Dans une entrevue avec le comte de Mier au quartier général Hohlendorf en Thuringe le 23 octobre, il venait d'ébaucher, pour ainsi dire, son accession à la coalition et son traité avec la cour d'Autriche. Je n'avais alors aucune donnée particulière sur les déterminations de Murat, mais je pressentais le changement de sa politique. J'appris qu'en arrivant à Lodi, venant de Leipzig et de Milan, tandis qu'il changeait de chevaux, et plusieurs Italiens de marque entourant sa voiture, comme l'un d'eux lui eut demandé s'il viendrait bientôt secourir le vice-roi, « Sans doute, répondit-il avec son air gascon, avant un mois, je viendrai vous secourir avec 50 000 bons. » Et il partit comme un éclair. J'en inférais qu'il avait dit précisément le contraire de ce qu'il méditait. En effet, il entrait alors dans les vues de Murat, en même temps qu'il s'allierait à l'Autriche, de se présenter aux Italiens comme le soutien de leur indépendance. J'appris même qu'il y avait accueilli, en traversant la Haute-Italie, plusieurs chefs italiens et officiers supérieurs qui travaillaient aussi à l'affranchissement de leur patrie en leur promettant d'embrasser leur cause et d'amener une armée sur le pot. À mon arrivée à Rome, je trouvai le général Miollis et l'administrateur Jeannet, pleins de défiance et de soupçons sur la conduite de Murat, qui, me dirent-ils, se rapprochait ouvertement de la coalition et organisait une nouvelle armée composée en partie de Napolitains, de transfuges italiens, de Corses et de Français. Tous les avis de Naples annonçaient qu'il venait d'abolir le système continental dans ses États et de permettre l'entrée dans ses ports des vaisseaux de toutes les nations. On assurait que non seulement il négociait avec la cour de Vienne, mais encore avec Lord Bentinck, dans l'intention de conclure sa paix séparée avec la Grande-Bretagne. Les craintes du commandant militaire de Rome étaient partagées par le vice-roi, qui venait de dépêcher à Naples son aide-de-camp Giflenga pour s'assurer des dispositions du roi. On lui donna des assurances de paix et d'amitié dont se contenta ce jeune officier peu au fait des manèges de cette cour. Murat, se déclarant pour l'indépendance italienne, trouvait un parti dans les États romains, parmi les Carbonari et les Crivellari, espèce d'illuminés politiques qui recrutaient parmi les grands seigneurs, les jurisconsultes et les prélats romains. Le prêtre Battaglia venait d'insurger les campagnes des environs de Viterbe. Il s'était mis à la tête d'une troupe de révoltés, s'emparant des caisses publiques et levant des contributions sur les personnes attachées au parti français. En même temps, des écrits et des proclamations incendiaires étaient répandus avec profusion dans les États pontificaux. Miollis, ayant fait marcher la force armée, dispersa bientôt les bandes d'insurgés. Battaglia ayant été arrêté et conduit à Rome, ses dépositions laissèrent entrevoir qu'il était l'agent du consul napolitain Zuccari, chargé par sa cour de susciter des soulèvements contre la domination française. « Je pensais qu'il fallait opposer aux menées des Napolitains beaucoup de circonspection et de prudence et ne rien précipiter. » Cependant, Murat venait de mettre en mouvement ses troupes sur la Haute-Italie. Dès les premiers jours de décembre, une division d'infanterie et une brigade de cavalerie napolitaine avec 16 bouches à feu entrèrent dans Rome. Ces troupes étaient commandées par le général Caroscosa. Quoique l'empereur eût donné l'ordre de traiter le roi de Naples comme un allié qui était prêt à montrer de bonnes dispositions et que le mouvement de son corps d'armée fût concerté avec le vice-roi, le général Miollis reçut les Napolitains avec défiance, faisant mettre en état de défense Civita Vecchia et le château Saint-Ange où furent transportées les caisses et les effets précieux. Trois ou quatre divisions napolitaines se succédèrent en se dirigeant à la fois par les Abruzzes sur Ancône et par Rome, soit sur la Toscane, soit vers Pesaro, Rimini et Bologne. C'était dans cette dernière ville que Murat venait d'envoyer le prince Pignatelli Strongoli, moins pour marquer la route de son armée, dont la présence sur le Pô paraissait avoir pour but de contenir les Autrichiens, que pour disposer tous les amis de la cause de l'indépendance à l'aider dans ses entreprises. Pignatelli avait ordre de travailler à lui faire des partisans. Sur ces entrefaites, je reçus de l'empereur la mission de me rendre à Naples pour tâcher de détourner Murat de se déclarer contre lui. Mes instructions portaient de le ménager et d'user de beaucoup d'adresse dans cette négociation, de le flatter même de la perspective qu'on lui abandonnerait les marches de Fermo et d'Ancône, dépouilles de l'État romain dont il ambitionnait depuis longtemps la possession. Je fus précédé à Naples par trois lettres de l'empereur adressées à Joachim, l'une d'elles annonçant ma prochaine arrivée comme chargé de ses pouvoirs. Je fis mon entrée à la cour de Naples vers la mi-décembre. C'était une singulière cour que celle de Joachim et une royauté bien vacillante que sa royauté du Vésuve. Murat avait un grand courage et peu d'esprit. Aucun grand personnage du jour ne poussa plus loin que lui le ridicule de la parure et l'affectation de la pompe. C'est lui que ses soldats appelaient le roi Franconi. Toutefois, Napoléon, qui ne se méprenait pas sur le caractère de son beau-frère, crut à tort que la reine Caroline, sa sœur, femme ambitieuse et hautaine, conduirait son mari et que, sans elle, Murat ne saurait être roi. Mais dès les premiers temps de son règne, soupçonnant l'empire auquel on voulait le soumettre maritalement, il affecta de s'en affranchir, et les circonstances politiques où il se trouvait alors combattirent d'autant plus l'ascendant de la reine, qui n'avait alors pour conseil et pour alentour que des hommes qui le poussaient à se déclarer contre Napoléon en lui présentant ce revirement de système comme une nécessité politique. Dans une cour où la politique n'était que de l'astuce, la galanterie de la dissolution et la représentation extérieure une pompe théâtrale, je me trouvais à peu près, si la comparaison n'est pas trop ambitieuse, comme Platon à la cour de Denis. Dès mon arrivée, je fus assailli d'intrigants des deux nations, parmi lesquels, sous le masque d'une sorte d'ingénuité, je reconnus des émissaires de Paris. Il y en avait aussi dans le conseil du roi, et je me défiais surtout d'un certain marquis de G, qui, des deux acceptions dans lesquelles son nom est pris en latin, avait toute la vigilance de l'une sans rien de la franchise de l'autre. Lors de mes premières conférences en présence de Murat, je dus y apporter une grande réserve. Je feignis d'être sans instruction et je priai le roi de m'expliquer sa situation politique. Il m'avoua qu'elle était critique et embarrassante. qui se trouvait placé d'une part entre son peuple et son armée, abhorrant toute idée de persévérance dans l'alliance française, de l'autre entre l'empereur Napoléon, qui le laissait sans direction et l'abreuvait de dégoût, et les souverains alliés, qui exigeaient de lui qu'il prononçât sans délai son accession complète à la coalition, que, d'un autre côté, les chefs des Italiens lui demandaient de concourir à déclarer l'indépendance de leur patrie, tandis que le vice-roi était en opposition à toutes les mesures favorables aux indépendants, soit par les ordres de l'empereur, soit d'après ses propres vues. Enfin, ajouta le roi, j'ai encore à lutter contre les manœuvres de Lord Bentinck, qui, de la Sicile, cherche à soulever les Calabres et assiste d'argent et de promesses les Carbonari dans toute l'étendue de mon royaume. Je dis au roi qu'il ne m'appartenait point de lui donner aucun conseil, que, de sa part, c'était une résolution qu'il fallait prendre, que je devais me borner à l'engager à en prendre une, et une fois prise, à s'y tenir d'une manière invariable. Le roi, à l'issue de la conférence, m'avoua qu'ayant communiqué à l'empereur un mois auparavant ses craintes qu'un détachement autrichien ne fût dirigé sur les bouches du Pô, il lui avait demandé à cette occasion qu'il renonçât franchement à la possession directe de l'Italie et compléta ainsi ses bienfaits pour elle en proclamant son indépendance. Je répondis au roi qu'il était difficile de croire que l'empereur fît de nécessité vertu, que, dans cette supposition, je réclamerais la priorité pour la France, moi qui l'avais supplié en vain à plusieurs reprises de rendre la guerre nationale. Mes autres conférences furent tout aussi oiseuses. Murat était lancé. Son conseil le poussait de plus en plus dans les intérêts de la coalition. Situation politique incompatible avec son projet d'appeler l'Italie à l'indépendance. Je le lui fis sentir, mais en vain. Alors je me bornai à lui recommander, dans une conférence secrète, d'augmenter son armée et d'avoir de bonnes troupes et de rattacher à tout prix à sa cause la secte des Carbonari qu'il avait impolitiquement persécutée et qui me paraissait prendre plus de consistance à mesure que les événements acquéraient plus de gravité. Je terminai par conseiller au roi de ne pas trop compter sur sa cohue princière d'altesse napolitaine et de s'entourer plutôt de gens qui auraient d'autres excellences que celles de nom et à la fermeté desquelles il pourrait se confier. Ma mission à Naples n'était pas sans agrément. Je respirais en plein hiver sous le plus beau ciel de l'Europe. Je me voyais accueilli et considéré dans une cour brillante, mais toutes mes pensées se tournaient vers la France et mes regards ne la quittaient pas. L'invasion la menaçait, l'étranger était à ses portes. Qu'allait faire l'empereur? Qu'allait-il devenir? J'étais convaincu qu'il n'aurait point assez de grandeur d'âme pour s'identifier avec la nation. Isolé, sa ruine était certaine, mais les éclats de sa chute graduelle pouvaient encore être longtemps funestes à la patrie. Ne recevant aucune dépêche directe et n'ayant que des notions vagues sur l'état de Paris, je me hâtais de reprendre la route de Rome où m'attendait ma correspondance. Je crus d'autant plus convenable de quitter la cour de Murat que je savais, d'une manière certaine, qu'on y attendait l'arrivée du comte de Neipperk, plénipotentiaire d'Autriche, chargé de conclure son traité d'accession, et que je me serais trouvé alors dans une fausse position à Naples. Rentré dans la capitale du monde chrétien, je n'eus rien de plus pressé que d'ouvrir mes dépêches de Paris. Elle contenait la nouvelle qu'on s'attendait d'un moment à l'autre à la violation de la neutralité de la Suisse par les Alliés et à l'invasion de notre territoire par les frontières de l'Est. Qu'à peine l'empereur pourrait-il rassembler entre Strasbourg et Mayence une 60 000 d'hommes dans le court espace d'un mois, tant les maladies épidémiques et la désorganisation avaient causé de ravages dans ses armées. Que cependant il s'obstinait à repousser les bases sommaires que les alliés venaient de lui faire parvenir de Francfort, bien que, dans le conseil, Talleyrand le poussa fortement à la paix, ne cessant de lui répéter qu'il se méprenait sur l'énergie de la nation, qu'elle ne seconderait pas la sienne et qu'il s'en verrait abandonné. Sourd à de si sages conseils, que méditait Napoléon dans cette crise? Un coup d'État, se faire proclamer dictateur. Sorti des factions et des orages d'une révolution où les mots ont eu beaucoup d'empire, il s'était persuadé, par suite de la confusion d'idées qui régnait dans sa tête en matière d'histoire ancienne, que le nom de dictateur produirait un grand effet. Il y renonça néanmoins sous les représentations de Talleyrand et de Cambacérès. Ils observèrent qu'il fallait faire la chose sans le dire, qu'il pouvait même prendre les clés du Sénat dans sa poche sans avoir besoin d'aucun titre nouveau. C'est ce qu'il fit, et le palais du Sénat fut depuis ce temps gardé à vue. Tel était le résumé de ma correspondance, et dans les dispositions où m'avait jeté l'impression que j'en ressentis, j'écrivis à l'empereur la lettre suivante. « J'ai pris congé du roi de Naples, je ne dois dissimuler à votre majesté aucune des causes qui ont arrêté l'activité naturelle de ce prince. Premièrement, c'est l'incertitude où vous l'avez laissé sur le commandement des armées d'Italie. Le roi, dans ses deux dernières campagnes, vous a donné tant de preuves de son dévouement et de ses qualités militaires qu'il s'attendait à recevoir de vous cette marque de confiance. Il se sent humilié à la fois et de vos soupçons et de l'idée de se trouver placé sur la même ligne que vos généraux. Deuxièmement, on dit sans cesse au roi, si, pour conserver l'Italie à l'empereur, vous dégarnissez votre royaume de troupes, les Anglais vont y opérer des débarquements et y exciter des séditions d'autant plus dangereuses que les Napolitains se plaignent hautement de l'influence de la France. Dans quel état, ajoute-t-on, se trouve cet empire? Sans armée, découragé par une campagne que ses ennemis ne regardent pas comme le terme de ses maux, puisque le Rhin n'est plus une barrière, et que l'empereur, loin de pouvoir garantir l'Italie, a peine à s'opposer à l'envahissement de ses frontières d'Allemagne, de Suisse et d'Espagne. « Songez à vous, lui écrit-on de Paris, ne comptez que sur vous-même. L'empereur ne peut plus rien, même pour la France. Comment garantirait-il vos états ? Si, dans le temps de sa toute-puissance, il eut la pensée de réunir Naples à l'Empire, quel sacrifice serait-il porté à faire pour vous? Il vous sacrifierait aujourd'hui à une place forte. Troisièmement, d'un autre côté, vos ennemis opposent au tableau de la situation de la France celui des avantages immenses que présente au roi son accession à la coalition. Ce prince consolide son trône, agrandit ses états. Au lieu de faire à l'empereur le sacrifice inutile de sa gloire et de sa couronne, il va répandre sur l'une et l'autre l'éclat le plus brillant en se proclamant le défenseur de l'Italie, le garant de son indépendance. Se déclare-t-il pour votre majesté? Son armée l'abandonne, son peuple se soulève. Sépare-t-il sa cause de celle de la France? L'Italie tout entière accourt sous ses drapeaux. Tel est le langage que parlent au roi des hommes qui tiennent de près à votre gouvernement. Peut-être ne fait-on en cela que s'abuser sur les moyens de servir votre majesté. La paix est nécessaire à tout le monde. Déterminer le roi à se mettre à la tête de l'Italie est à leurs yeux le plus sûr moyen de vous forcer à faire la paix. Je suis arrivé à Rome le 18. Ici, comme dans toute l'Italie, le mot d'indépendance a acquis une vertu magique. Sous cette bannière se rangent sans doute des intérêts divers, mais tous les pays veulent un gouvernement local. Chacun se plaint d'être obligé d'aller à Paris pour des réclamations de la moindre importance. Le gouvernement de la France, à une distance aussi considérable de la capitale, ne leur présente que des charges pesantes, sans aucune compensation. Conscription, impôts, vexation, privation, sacrifice, voilà, se disent les Romains, ce que nous connaissons du gouvernement de la France. Ajoutons que nous n'avons aucune espèce de commerce, ni intérieur ni extérieur, que nos produits sont sans débouché et que le peu qui nous vient du dehors, nous le payons à un prix excessif. Sire, lorsque votre majesté était au plus haut degré de la gloire et de la puissance, j'avais le courage de lui dire la vérité parce que c'était la seule chose qui lui manquait. Aujourd'hui, je la lui dois également, mais avec plus de ménagement, puisqu'elle est dans le malheur. Son discours au corps législatif aurait fait une profonde impression sur l'Europe et aurait touché tous les cœurs si votre majesté eût ajouté au désir qu'elle a manifesté pour la paix une renonciation magnanime à son ancien système de monarchie universelle. Tant qu'elle ne se prononcera pas sur ce point, les puissances coalisées croiront ou diront que ce système n'est qu'ajourné, que vous profiterez des événements pour y revenir. La nation française elle-même restera dans les mêmes alarmes. Il me semble que si, dans cette circonstance, vous concentriez toutes vos forces entre les Alpes, les Pyrénées et le Rhin, si vous faisiez une déclaration franche de ne pas dépasser ces frontières naturelles, vous auriez tous les vœux et tous les bras de la nation pour défendre votre empire. Et certes, cet empire serait encore le plus beau et le plus puissant du monde. Il suffirait à votre gloire et à la prospérité de la France. Je suis convaincu que vous ne pouvez avoir de véritable paix qu'à ce prix. Je crains d'être seul à vous parler ce langage. Défiez-vous des mensonges et des courtisans. L'expérience a dû vous les faire connaître. Ce sont eux qui vous ont poussé en Espagne, en Pologne, en Russie, qui vous ont fait éloigner de vous vos plus fidèles amis et qui, dernièrement encore, vous ont détourné de signer la paix à Dresde. Ce sont eux qui vous trompent aujourd'hui et qui vous exagèrent votre puissance. Il vous en reste assez pour être heureux et pour rendre la France paisible et prospère. Mais vous n'avez rien de plus et toute l'Europe en est persuadée. Il serait même inutile de lui faire illusion, on la tromperait plus. Je conjure votre majesté de ne pas rejeter mes conseils. Ils partent d'un cœur qui n'a cessé de vous être attaché. Je n'ai point le sot amour-propre de voir mieux qu'un autre. Si chacun avait la même franchise, il vous tiendrait le même langage. Il vous aurait parlé comme moi après la paix de Tilsit, après la paix de Vienne, avant la guerre contre la Russie et, en dernier lieu, à Dresde. Il est affligeant pour la dignité de l'homme que je sois le seul qui ose vous dire ce qu'il pense. Si votre majesté éprouve de nouveaux malheurs, je n'aurai pas à me reprocher d'avoir cessé de lui dire la vérité. Au nom du ciel, mettez un terme à la guerre, faites que les âmes puissent trouver un moment pour se reposer. Ma lettre était à peine partie que Napoléon frappait son dernier coup d'État, la dissolution du corps législatif. De ce palais des Tuileries qui n'aurait dû retentir que des vœux et des hommages et qui fut transformé soudainement en une arène d'orgueil, de colère et de scandale, on vit sortir épouvantés législateurs et magistrats, généraux et fonctionnaires publics. Tous furent pénétrés d'une profonde douleur de voir le chef de l'État et la nation se retirer l'un de l'autre au moment où ils auraient eu le plus besoin de leur secours mutuel. Sous quels auspices allait donc s'ouvrir le troisième lustre de l'Empire? Cette année serait-elle la dernière de sa durée? Quel funeste présage pour la défense de la patrie envahie par 5 armées étrangères marchant sous les drapeaux de tous les potentats de l'Europe! Pour continuer d'en imposer à l'Autriche et se croyant maître de la détacher à son gré de la coalition, l'empereur, au début de cette campagne définitive, conserva la régence à Marie-Louise, de sorte que l'Empire, dans son agonie, eut de fait 2 gouvernements, l'un au camp de Napoléon, l'autre à Paris. Bientôt même, il ajouta encore à tout ce que cette régence avait d'absurde dans la pratique comme dans la conception, en déférant à son frère Joseph, presque au moment où il venait d'investir l'impératrice du pouvoir dirigeant, la lieutenance générale de l'Empire. Ce n'était qu'un élément de division de plus qu'il jetait dans son gouvernement. Ce n'est pas ainsi que j'avais conçu la régence et que j'aurais fini par la faire prévaloir si le mauvais génie de la Révolution ne m'eût pas tenu enchaîné au-delà des Alpes. Je le demande, quelle était dans cette incohérence du pouvoir, la personne ou l'autorité qu'on pouvait réellement considérer comme dépositaire de la pensée de Napoléon? Joseph n'avait pas le contrepoids de l'archichancelier Cambacérès, qu'il était de l'impératrice et de Joseph, et l'impératrice n'était là que pour la forme. Voilà donc Cambacérès, la cheville ouvrière de la régence de Paris. Mais il ne l'était que sous la surveillance du ministre de la police, véritable inquisiteur domestique. En elle-même, la police n'est qu'une puissance occulte dont la force réside dans l'opinion qu'elle s'est donnée de sa force. Alors elle peut devenir l'un des plus grands ressorts de l'État, mais dans les mains d'un Savary, le talisman de la police était brisé à jamais. On voit par ce qui précède que jamais gouvernement ne s'était tenu prêt à succomber sous autant de précautions et peut-être par excès de précautions. Il est pourtant vrai de dire que toutes les autorités se trouvaient d'accord sur un point, l'impossibilité de conserver le gouvernement dans les mains de Napoléon. Personne n'a eu le courage de le proclamer tout haut et d'agir en conséquence. Mais aussi, quelle honte pourtant d'hommes capables et expérimentés d'avoir laissé consommer la ruine de l'État et opérer sous l'influence de l'étranger une révolution dont la patrie en pleurs réclamait l'initiative. Ô vous qui m'avez dit depuis et après coup, pourquoi n'étiez-vous donc pas là? Combien cette sorte de regret ne relève-t-elle pas votre lâcheté? Je n'étais pas là précisément parce que j'aurais dû y être et qu'on avait pressenti que par la seule force des choses, tous les intérêts de la Révolution que je représentais à moi seul auraient prévalu et paré à la catastrophe. Je me méprenais si peu sur notre état réel que, voulant hâter mon retour et mettre un terme à ma mission, j'écrivais à l'empereur une seconde lettre où je lui représentais combien il était contraire à sa dignité que je restasse en qualité de son gouverneur général à Rome, envahi par les Napolitains et sous leurs canons pour ainsi dire. Que d'ailleurs il devenait impossible que Rome, la Toscane et l'état de Gênes pussent être conservés si le roi de Naples accédait à la coalition et que selon moi la politique commandait d'entrer avec ce prince en arrangement pour lui abandonner l'occupation militaire provisoire des pays qu'il nous serait impossible de garder ou de défendre, que nous en retirerions le double avantage de sauver nos garnisons et de rattacher indirectement le roi de Naples à la cause française. Que du reste, trouvant ma dignité blessée à Rome, où mon autorité ne pouvait avoir aucun poids, je me dirigeais sur Florence, où j'attendrais ses dernières instructions. Je trouvais Florence, comme le reste de l'Italie, inquiète, en suspens, partagée sur l'opinion qu'on devait se former des mouvements de Murat vers la Haute-Italie. Les adhérents de Napoléon assuraient que les Napolitains, restés fidèles et dévoués à sa cause, ne se portaient sur le pot que pour seconder nos efforts contre l'ennemi commun et que Murat viendrait les commander en personne. Les partisans de l'indépendance ne voyaient dans la marche des Napolitains que la prochaine arrivée d'auxiliaires qui les aideraient à s'affranchir du joug des Français. D'autres enfin ne voyaient pas sans inquiétude sur le théâtre de la Haute-Italie une nouvelle armée qui n'était à leurs yeux qu'un ramassis de vagabonds et de pillards enrôlés par force et tout à fait indisciplinés. Qu'attendre, me disait-on, d'un Carascosa, médiocre talent mais plein de forfanterie, d'un Macdonaldo, ancien aide de camp du vieux général cisalpin Trivulzi, dont il a épousé la concubine et qui, n'ayant pu obtenir d'emploi ni en France ni dans le royaume d'Italie, s'est jeté de désespoir dans les troupes de Murat, d'un ex-général lombard Lecky, malheureusement connu pour ses cruautés, ses exactions et ses rapines en Espagne, et qui, traduit en France devant un conseil de guerre, fut renvoyé sans emploi. Peut-être viendra-t-on vanter le jeune Lavéguillon, récemment entré en grâce auprès de Murat, qui, par une boutade de jalousie, l'avait disgracié en 1811, époque où, à la tête des vélites à cheval de sa garde, il était, selon les uns, trop remarqué par la reine Caroline, et selon d'autres, rival encore plus heureux de Murat. Les autres généraux n'ont plus de consistance ni plus de considération. Ainsi, je sus bientôt à quoi m'en tenir sur cette armée napolitaine. Elle se composait de 40 bataillons, 20 escadrons, en tout 20 000 hommes, et de 50 pièces d'artillerie. Du reste, elle était d'une assez belle tenue, mais en effet peu disciplinée. Le gouvernement de Toscane était d'autant plus inquiet de son avenir que, dès le 10 décembre, les Anglais avaient opéré un débarquement à Viareggio et de là s'étaient présentés devant Livourne. Mais la bonne contenance de la garnison française les avait décidés à se rembarquer. Toutefois, cette tentative ne paraissait être de leur part qu'une première reconnaissance. Ce fut au milieu de ces circonstances que je me présentai à la cour de la Grande-Duchesse, où je fus parfaitement accueilli. Je trouvais en elle une femme singulière que, pour cette fois, j'eus le temps d'étudier. Dépourvue de beauté et de charme, Élisa n'était pas en esprit et les premiers mouvements de son cœur étaient bons. Mais un défaut incurable de jugement et ses penchants à la lubricité la jetaient dans des écarts et dans l'extravagance. Son tic consistait à se modeler par imitation sur les habitudes de son frère, affectant sa brusquerie, recherchant le faste, l'appareil militaire, et négligeant les arts et la paix, les lettres mêmes, dont jadis elle s'était érigée en protectrice par engouement. Dans un pays où avaient tant fleuri l'agriculture et le commerce, elle ne s'était occupée qu'à se former une cour splendide et servile, organisant des bataillons de conscrits, faisant et défaisant les généraux. Là où jadis les universités de Pise et de Florence, les académies de Crusca, del Cimento et del Disegno avaient jeté tant d'éclat, elle avait laissé dépérir les études, n'accordant de protection qu'à des histrions, des baladins et des joueurs de lutte. En un mot, Élisa était redoutée et n'était point aimée. Quant à moi, loin d'avoir à m'en plaindre, je la trouvais prévenante, affectueuse, résignée même à toutes les traverses dont elle était menacée, se déférant volontiers à mon expérience et à mes conseils. Dès ce moment, je devins le directeur de sa politique. Elle laissa percer devant moi son dépit de ce que Napoléon était à la veille de perdre, non seulement peut-être l'Empire par son obstination, mais encore de sacrifier sans hésiter les établissements dont sa famille était en possession. Je devinai alors toutes ses craintes et je compris combien elle était alarmée de l'état précaire de la Toscane, qu'elle s'attendait avec douleur à voir échapper de ses mains. Je ne lui dissimulai pas qu'à Dresde j'avais donné à Napoléon les avis les plus sincères et les plus à propos, que je l'avais averti qu'il allait jouer sa couronne seul contre toute l'Europe, qu'il devait céder l'Allemagne et se tenir ensuite derrière le Rhin en appelant la nation à son aide, qu'il serait forcé malgré lui d'en venir là, mais qu'alors il prendrait trop tard un parti commandé par la nécessité. Cependant, les différents corps de l'armée de Murat parvenaient successivement à leur destination, soit à Rome, soit dans les marches. Le général Lavéguillon, son aide-de-camp, qui était à Rome même à la tête de 5 000 Napolitains, se déclarant tout à coup commandant des États romains, prit possession du pays. Le général Miollis, qui n'avait que 1 800 soldats français, se renferma dans le château Saint-Ange. Lavéguillon le somma inutilement de se rendre et fit cerner le château. Il demanda une entrevue à Miollis que celui-ci refusa nettement. Mais bientôt, Murat lui-même, qui était parti de Naples le 23 janvier, fit son entrée à Rome avec cette pompe qu'il recherchait avec tant d'empressement. Il fut reçu avec de grands témoignages de satisfaction par les indépendants. Murat fit proposer au général Miollis ainsi qu'au général La Salsette, qui défendait Civitavecchia avec 2 000 hommes, de retourner en France, eux et leur garnison. Ces deux généraux s'y refusèrent, et le roi laissa un corps d'observation chargé de bloquer ces deux places. En même temps, il avait fait commencer le siège de la citadelle d'Ancône, où s'était retiré le général Barbou. Toutefois, il n'y avait point encore d'hostilité ouverte, mais le roi de Naples, suivi de 9 000 hommes d'infanterie et de 4 000 chevaux, ayant fait son entrée à Bologne, fit occuper Modène, Ferrare et Cento. Sa conduite équivoque et les mouvements de ses troupes qui s'avançaient vers Parme et vers la Toscane ne laissaient plus de doute sur sa prochaine défection. Joachim était entré dans Bologne le 1er février. Le jour même, il détacha de son armée le général Minutolo avec 800 hommes pour prendre possession de la Toscane, dont il nomma gouverneur le général Joseph Lecchi. À cette nouvelle, le trouble s'empara de la cour de la grande-duchesse qui se lamentait d'être ainsi dépouillée par son beau-frère. Appelé au conseil, et d'ailleurs instruit que le peuple allait partout au-devant des troupes napolitaines, je conseillais à la grande-duchesse de céder à l'orage et de se retirer, soit à Livourne, soit à Lucques. Cette résolution prise, elle enjoignit à son mari, le prince Félix Bacciocchi, d'opérer l'évacuation militaire de la Toscane. Je fus témoin de cette débâcle qui, sur une moindre échelle, n'était que la répétition de la grande scène dont Paris allait être prochainement le théâtre. Mais en Toscane, il n'y eut pas d'effusion de sang, ce ne fut que fuite d'une part et de l'autre guerre dérisoire de jeux de mots et de sarcasmes dont les Florentins poursuivent les chefs et les agents du gouvernement. Par exemple, le Bacciocchi, en changeant de fortune, avait cru devoir changer de nom. Il s'était fait appeler Félix l'Heureux au lieu de Pascal, nom aussi ridicule en Italie que celui de Jocris en France. De là ce jeu de mots des Florentins qui lui disaient au moment de sa déconfiture « Quando eri felice, eravamo pasquali, adesso che sei ritornato pasquale, saremo felici ». Le préfet de Florence, mon ami intime, ne fut pas exempt des atteintes de ce genre. Comme il était très rigide pour la conscription, et que toutes les fois qu'un homme se présentait pour être réformé, il le congédiait avec sa formule habituelle « bon à marcher », au moment où les autorités furent contraintes d'abandonner la ville, on écrivit sur sa porte en gros caractères « bon à marcher ». Tandis que la grande-duchesse et moi étions retirés à Lucques, Bacciocchi tenait encore la citadelle et les forts de la ville de Florence et celui de Volterra. J'attendais de jour en jour les pouvoirs que j'avais demandés pour l'évacuation militaire de la Toscane et des États romains. La grande-duchesse désirait également voir la Toscane délivrée des troupes françaises dans l'espoir d'un arrangement avec Murat dont la fortune lui apparaissait offrir plus de chances que celle de Napoléon. Elle se défiait surtout du petit Lagarde que l'empereur lui avait imposé en qualité de commissaire général de police et qui m'était redevable de la fortune. Elle allait jusqu'à le soupçonner d'adresser à Napoléon des rapports qui lui étaient contraires, de même qu'à moi. Élisa s'en ouvrit franchement et me témoigna un jour combien était vif son désir de s'emparer du portefeuille de ce commissaire général afin de vérifier si ses soupçons étaient fondés. Persuadé moi-même que la correspondance de la garde devait m'être encore plus défavorable qu'à la grand-duchesse, je ne cherchais point à la dissuader quand elle me dit qu'elle allait lui donner une mission pour se rendre à Pise et qu'elle le ferait ensuite arrêter par des hommes masqués et apostés sur la route. Il me parut plaisant de voir ainsi détrousser sur le grand chemin un commissaire général de police qui, tout en affectant de la rondeur et de la bonhomie, se vantait d'être plus fin que l'Italien le plus rusé. Il s'agissait de donner un démenti à sa suffisance. En effet, à son retour de Pise, les hommes apostés l'arrêtent, le font descendre de sa voiture, et tandis que deux d'entre eux le tiennent en joue sur le bord du fossé, les autres lui enlèvent argent, bijoux et surtout ses papiers qui étaient dans une valise de l'avant-train. Quand nous vîmes venir les gens, tout effarés, nous apprendre la mésaventure de monsieur le commissaire général, nous eûmes peine, la grande-duchesse et moi, à conserver notre gravité. Il fallut nous retirer à l'écart pour donner cours au rire qui nous suffoquait. Mais pourtant, dans cette opéra seria, tout le monde fut mystifié. Les prétendus papiers du commissaire général qu'on nous apporta consistaient dans une liasse de numéros du moniteur que la garde, ayant une voiture à double fond où étaient cachés ses papiers secrets, avait fait placer dans la caisse extérieure. Il en fut quitte pour son argent, ses bijoux et la peur, et suivant toute probabilité, pour la peur seulement, car il n'aura pas manqué de s'indemniser, soit à Florence, soit à Paris. Cependant Murat, qui déjà occupait les légations, s'efforçait de remplir de son nom l'Italie entière. Il m'écrivait lettre sur lettre, me répétant que son alliance avec la coalition lui paraissait le seul moyen de conserver le trône, et m'engageant de dire à l'empereur toute la vérité sur l'état actuel de l'Italie. Je lui répondis que je l'avais prévenu sur ce point et qu'il n'avait pas besoin de m'encourager pour oser dire la vérité à l'empereur, que j'avais toujours pensé que c'était trahir les princes que de la leur cacher. J'insistais sur la nécessité pour le roi de Naples de se constituer une bonne armée comme moyen d'influence dans la coalition. Je lui recommandais surtout de bannir toute indécision. Il lui était très essentiel, lui disais-je, de se créer une grande considération et de faire estimer son caractère. Et puisque sa décision paraissait arrêtée, je devais à l'amitié qu'il avait pour moi de lui avouer que la moindre hésitation serait funeste, qu'elle appellerait sur lui la défiance, qu'il pouvait d'ailleurs servir sa patrie en contribuant à la pacification générale et en relevant la dignité des trônes et l'indépendance des nations. J'ajoutai que je voyais avec peine les soulèvements des campagnes et qu'il ne fallait pas remuer les passions qu'on ne pouvait pas satisfaire. Invité aussi par ce prince à lui envoyer par écrit les réflexions que je lui avais présentées à Naples sur les constitutions que lui demandaient les partisans de la liberté, je l'avertissais de ne pas se laisser entraîner à jeter au milieu du peuple napolitain des idées auxquelles il n'était point préparé. Enfin, lui disais-je, je crains que ce mot de « constitution » que j'entends sur toute ma route ne soit dans le grand nombre qu'un prétexte mis en avant par le désir de s'affranchir de toute obéissance. Les troupes de Murat étaient arrivées sur les rives méridionales du Pô. En prenant possession de la Toscane et des États romains, il s'était prononcé contre l'empereur, son beau-frère, en faveur de l'Autriche. Il était engagé et on n'était pas vis-à-vis de lui, car le traité qu'il avait signé à Naples le 11 janvier avec le comte de Neipperck n'était pas ratifié. Je jugeais d'après la gravité des événements devoir m'aboucher encore avec Murat et j'allais conférer avec lui secrètement à Modène. Là, je lui fis sentir, puisqu'il avait pris un parti décisif, qu'il devait le déclarer. Si vous aviez, lui dis-je, autant de fermeté dans le caractère que votre cœur renferme de qualité, vous seriez plus fort en Italie que la coalition. Vous ne pouvez la dominer ici que par beaucoup d'élan et de franchise. Il hésitait encore. Je lui communiquai mes nouvelles de Paris les plus récentes. Déterminé par leur contenu, il me confia son projet de proclamation, ou plutôt de déclaration de guerre, pour lequel j'indiquai quelques changements qu'il adopta. Cette proclamation, datée de Bologne, était conçue en ces termes. « Soldats ! Aussi longtemps que j'ai pu croire que l'empereur Napoléon combattait pour la paix et le bonheur de la France, j'ai combattu à ses côtés. mais aujourd'hui il ne m'est plus permis de conserver aucune illusion, l'empereur ne veut que la guerre. Je trahirai les intérêts de mon ancienne patrie, ceux de mes États et les vôtres, si je ne séparais pas sur le champ mes armes des siennes pour les joindre à celles des puissances alliées dont les intentions magnanimes sont de rétablir la dignité des trônes et l'indépendance des nations. Je sais qu'on cherche à égarer le patriotisme des Français qui sont dans mon armée par de faux sentiments d'honneur et de fidélité, comme s'il y avait de l'honneur et de la fidélité à assujettir le monde à la folle ambition de l'empereur Napoléon. Soldats, il n'y a plus que deux bannières en Europe. Sur l'une, vous lisez « religion, morale, justice, modération, loi, paix et bonheur ». Sur l'autre, « persécution, artifice, violence, tyrannie, guerre et deuil dans toutes les familles. Choisissez. » J'eus aussi à traiter avec Murat d'une affaire particulière qui touchait à mes intérêts. J'avais à réclamer, comme gouverneur général des États romains et ensuite de l'Illyrie, un arriéré de traitement qui s'élevait à la somme de 170 000 francs. Le roi de Naples s'étant emparé des États romains et des revenus publics, à ce titre, il devait acquitter ma créance. Il en donna l'ordre, l'exécution souffrit quelques retards. Néanmoins, avant de partir d'Italie, je pus dire que je n'y avais pas fait la guerre à mes dépens. Je retrouvai à Luc la grande duchesse, toujours en émoi et dans une vive inquiétude sur la marche des événements. Je lui annonçai que Murat allait en venir enfin à la levée de boucliers, mais que je doutais néanmoins qu'il mît assez de vigueur et de rectitude dans ses opérations pour s'attirer la confiance de ses nouveaux alliés, que les ministres d'Autriche et d'Angleterre lui reprochaient d'être français et surtout attachés à l'empereur. Que les révolutionnaires qui gouvernaient Florence en ce moment disaient hautement que le roi de Naples avait des intelligences avec la France et qu'il trompait les Italiens, qu'ils allaient même jusqu'à imputer à mes conseils l'inaction des troupes napolitaines, que les Autrichiens étaient impatients de voir marcher contre le vice-roi, lequel allait être incessamment attaqué par le général comte de Bellegarde. Je lui dis enfin que j'avais laissé Murat malade de chagrin, qu'il sentait dans quelle situation épineuse il s'était placé, mais que désormais il me serait difficile de lui faire parvenir mes avis. Peu de jours après, je reçus du ministre de la Guerre une dépêche contenant les instructions de l'empereur relatives à l'évacuation de l'État romain et de la Toscane. À ces instructions était jointe une lettre pour le roi de Naples que j'étais chargé de lui remettre personnellement. Il m'était prescrit de lui faire en même temps certaines communications confidentielles que je pouvais modifier selon la position où je trouverais ce prince. Je partis aussitôt pour Bologne, où se trouvait alors Murat. Jusqu'à Florence, je n'éprouvais aucune difficulté, mais à mon arrivée dans cette ville, les nouvelles autorités me signifièrent que je ne pouvais ni continuer ma route, ni m'arrêter à Florence, et que je devais me retirer à Prato pour y attendre la réponse du roi. Je lui expédiai aussitôt un courrier et revins à Luc, préférant séjourner dans cette ville, Prato étant déjà en insurrection. Je reçus bientôt la réponse de Murat, qui m'annonçait avoir donné l'ordre à ses généraux de traiter avec moi de l'évacuation de la Toscane et des États romains. Les pouvoirs dont m'avait investi l'empereur vinrent fort à propos. La plupart des troupes françaises qui étaient en Toscane s'étaient concentrées à Livourne. Celles qui étaient à Pise faisaient mine de résister. Déjà même le général napolitain Minutolo s'est emporté avec une colonne de l'armée de Murat de Florence à Livourne. Il y avait eu à Pise des hostilités entre cette troupe et un détachement français. Elles allaient devenir sérieuses. Instruit de l'événement, je partis de Luc en toute hâte et je me présentai aux avant-postes. M'étant fait reconnaître, je stipulai aussitôt une convention par laquelle les troupes françaises abandonneraient les postes et les forteresses qu'elles occupaient et rentreraient en France. Je donnai l'ordre aussitôt aux garnisons de Livourne et de la Toscane de se replier sur Gênes. Peu de jours après, je traitai, en vertu des mêmes pouvoirs, avec le lieutenant-général Lecky, gouverneur pour le roi de Naples en Toscane, de l'évacuation des États romains. Cette nouvelle convention stipulait la remise du château Saint-Ange et de Civitavecchia aux Napolitains. Les garnisons françaises devaient être transportées par mer à Marseille, aux frais du roi de Naples. Ainsi se termina ma mission en Italie, dont j'étais si impatient de voir arriver la fin pour rentrer dans ma patrie, alors dans un état si déplorable. Elle était inondée de troupes étrangères qui s'avançaient de plus en plus vers la capitale, dont Napoléon était réduit à défendre les approches. De loin, j'avais quelque embarras à m'expliquer la marche de certains événements. Par exemple, pourquoi les deux armées alliées réunies s'étaient séparées de nouveau après avoir gagné sur Napoléon la bataille de la Rothière au lieu de marcher ensemble sans délai sur Paris. Par là, on eût devancé de 2 mois les événements de la fin mars, ce qui aurait évité bien des désastres, bien du sang et des larmes inutilement répandues. Mais les alliés n'avaient alors rien de près dans Paris, et les cabinets qui ne penchaient pas pour la régence prolongèrent, à regret sans doute, les calamités de la guerre, afin d'arriver à d'autres combinaisons et à d'autres résultats. Quant au congrès de Châtillon, je pensais qu'il aurait l'issue du congrès de Prague. Tout annonçait que le dénouement de ce grand drame ne se ferait pas longtemps attendre. Avant de prendre la route de France, je me transportais à Volta, quartier général du prince vice-roi. Il avait opéré sa retraite sur le Mincio, et au moment de la dénonciation de la guerre du roi de Naples contre la France, il avait livré aux Autrichiens une de ces batailles qui, ne décidant rien en politique, ne profitent qu'à l'honneur des armes. J'eus avec le vice-roi 2 conférences particulières, dans lesquelles je lui représentais que donner des batailles devenait d'autant plus inutile que tout allait se décider dans le rayon de Paris. Je le détournais de déférer à l'ordre de l'empereur de porter l'armée d'Italie sur les Vosges, d'abord parce qu'il était trop tard pour qu'une jonction puisse opérer, ensuite qu'en passant les Alpes, il perdrait à tout jamais son établissement en Lombardie. Eugène m'avoua que Murat lui avait fait proposer secrètement de s'unir à lui pour se partager l'Italie après avoir renvoyé toutes les troupes françaises et qu'il avait repoussé cette proposition extravagante. Que sa déclaration de guerre le mettait, lui, Eugène, dans le plus grand embarras et qu'il ne croyait pas pouvoir tenir longtemps si Murat mettait quelque chaleur à servir les Autrichiens. Je le rassurai à cet égard, connaissant le caractère incertain de Murat, et sachant d'ailleurs que ses vœux pour l'indépendance italienne étaient déjà contrariés par les alliés. J'étais au quartier général de Gênes lorsque je vis arriver, dépêché par l'empereur, Feypoult, ancien préfet, en qui Murat avait une certaine confiance et que Napoléon lui envoyait, ainsi qu'à Eugène, avec la nouvelle de ses succès récents obtenus dans l'abri et à Montereau. Ces avantages étaient exagérés à dessein pour soutenir l'espoir d'Eugène d'une part et de l'autre pour ralentir le zèle de Murat dans la cause de ses nouveaux alliés. Un aide-de-camp d'Eugène, le comte Tascher, qu'il avait envoyé à Napoléon, étant revenu aussi en toute hâte, lui rapporta les propres paroles que l'empereur, enivré par quelques succès brillants mais passagers, lui avait adressées. « Retournez auprès d'Eugène, lui avait dit Napoléon, racontez-lui comment j'ai arrangé tous ces gens-là, c'est de la canaille que je chasserai à coups de fouet. » Tout le monde en était dans la joie au quartier général. Je pris Eugène à part et je lui dis que de telles fanfaronnades ne devaient inspirer de confiance qu'à des hommes follement enthousiastes, mais qu'elles ne pouvaient rien sur l'esprit de personnes raisonnables, que celle-ci voyait dans toute son étendue le danger imminent qui menaçait le trône impérial, que ce n'était point les bras qui manquaient au gouvernement, mais bien le sentiment pour les faire mouvoir, et qu'en se séparant de la nation, l'empereur, par son despotisme, avait tué l'esprit public. Je donnai quelques conseils à Eugène et je me mis en route pour Lyon, laissant l'Italie en proie, pour ainsi dire, à 4 armées différentes, françaises, autrichiennes, napolitaines et anglaises. Car cette fois, Lord Bentinck avait réellement débarqué à Livourne. De là signifiant à Élisa qu'il ne reconnaissait ni l'autorité de Napoléon ni la sienne comme grande-duchesse, et dictant ainsi des lois à la Toscane, il vint se réunir aux Napolitains qui occupaient Bologne, Modène et Reggio. Ainsi je laissai l'Italie dans un état équivoque, embarrassé, et rien de plus précaire alors que nos établissements au-delà des Alpes. Ni le vice-roi, ni Murat, et certes il ne manquait ni l'un ni l'autre de bravoure, n'avait assez de talent politique, ni même assez de consistance, aux yeux même des Italiens, pour soutenir le reste de notre puissance en Italie, surtout en marchant tous les deux dans des directions opposées. Du reste, j'étais bien plus inquiet de l'état alarmant de la France que de la situation chancelante du vice-roi et même de Murat. Au fond, le sort de l'Italie allait dépendre du résultat de la lutte alors si vivement engagée entre Napoléon et les monarques alliés qui s'efforçaient de le resserrer entre la Seine et la Marne.